Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir aussi nombreux pour la conférence de M. Dany Sandron que nous avons le plaisir d'accueillir. Docteur en histoire de l'art, diplômé de l'École des Chartes, il a été conservateur au Musée national du Moyen-Âge avant de rejoindre l'université en 1993. Actuellement, M. Sandron est professeur d'histoire de l'art de l'archéologie du Moyen-Âge à l'université Paris-Sorbonne. Il est spécialiste de l'architecture gothique. Il s'est intéressé de très près également aux arts figurés dans une approche iconologique des monuments. Il a publié plusieurs ouvrages, outre sa thèse de doctorat parue en 1998 sur la cathédrale de Soissons, architecture du pouvoir. On lui doit également un ouvrage sur l'architecture régionale, Picardie gothique, Picardie gothique entre Laon et Soissons, paru chez Picard en 2001, et une monographie sur Amiens, la cathédrale. Avec Philippe Laurens, vous me faites rire, il a publié un autre ouvrage sur Paris au Moyen-Âge, paru chez Paris-Gramme en 2006. Pour la conférence de ce soir, Monsieur Sandron a choisi de nous parler de la cathédrale de Bourges et sa place à l'horizon aquitain au XIIIe siècle. Il me reste, avant d'écouter Monsieur Sandron, à le remercier infiniment d'être ici ce soir. Merci et bonne soirée. N'oubliez pas vos téléphones.
Je vous remercie également pour cette invitation de prendre la parole ce soir pour vous présenter la cathédrale de Bourges. Je remercie vivement, évidemment, Madame Mansancal, la présidente, ainsi que son mari, qui est très gentiment venu me chercher à la gare. Je voudrais vous parler ce soir de la cathédrale de Bourges, ce monument tout à fait extraordinaire, qui, à la charnière des XIIe et XIIIe siècles, marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'architecture gothique, frappée par son gigantisme et puis une très grande nouveauté dans la définition des lignes architecturales. Et après une présentation générale, évidemment, de ce monument, que vous ne connaissez peut-être pas tous particulièrement, j'évoquerai ce qu'a privilégié l'historiographie, donc l'histoire de l'architecture depuis le XIXe siècle, à savoir les sources septentrionales de la cathédrale de Bourges, donc du nord de la France. Également des renvois à l'architecture romane, donc on élargit déjà un petit peu l'horizon en remontant dans le temps. Et j'aborderai également des sources plus anciennes et à la fois plus éloignées que forme l'architecture paléochrétienne des grandes églises, donc romaine en particulier, pour terminer évidemment, et c'est ce qui justifie le titre de la communication, sur des rapports avec l'architecture aquitaine, notamment la cathédrale de Poitiers et la cathédrale de Bordeaux. Donc la cathédrale de Bourges est un monument, comme vous le voyez sur ses différents relevés, de très grande ampleur. En plan, elle s'étire sur 120 mètres de longueur, plus de 40 mètres de large, en hauteur jusqu'à 35 mètres au sommet des voûtes du vaisseau principal, qui, sur cette coupe transversale évidemment, montre une structure à 5 vaisseaux échelonnés qui s'intègrent dans un triangle équilatéral qui, ainsi... présente donc la même largeur intérieure et enfin de même dimension donc que la hauteur du vaisseau principal. Donc une architecture qui est évidemment très bien proportionnée et qui, donc à l'époque de sa mise en chantier, vers 1195, est, avec la cathédrale de Chartres, qui est strictement contemporaine, le monument le plus gigantesque jamais élevé depuis la fin de l'Antiquité. Nous sommes donc en présence d'un édifice dont l'espace intérieur est tout à fait stupéfiant, à la fois par l'élancement en hauteur et puis cette dilatation des volumes intérieurs, donc plus unifiés qu'on l'a jamais réalisé auparavant. Vous voyez sur cette vue en perspective donc les dégagements qui permettent donc entre les piliers des grandes arcades d'avoir des aperçus sur le bas-côté intérieur qui figure ici sur la coupe et au-delà vers un bas-côté extérieur beaucoup plus ramassé. Donc on passe de 9 mètres de hauteur dans les bas-côtés extérieurs, 21 mètres, ce qui est déjà considérable, et parfois même la hauteur maximale de la plupart des édifices élevés au XIIe siècle. Et de ces 21 mètres, on passe à 37 mètres. Donc là encore un record à l'époque qui sera rapidement dépassé, mais à l'époque de la mise en chantier de Bourges, c'est véritablement quelque chose de tout à fait inédit. Une vue aérienne de l'extérieur permet de saisir évidemment les volumes du monument, caractérisés donc par leur compacité et toujours cette structure pyramidante, donc partant des éléments les plus bas à l'extérieur, donc le déambulatoire et le bas-côté extérieur, jusqu'au sommet donc du haut vaisseau, en passant par le bas-côté intérieur. Et vous avez donc cette série de chapelles rayonnantes disposées à l'aplomb de contreforts, au-dessus donc d'une crypte qui figure ici sur le relevé, ce qui rend encore plus évidemment impressionnante cette architecture. Donc il faut noter, nous y reviendrons, l'absence de transept, c'est-à-dire de vaisseau transversal, qui dans la plupart des édifices en général leur fait dessiner un plan en croix. Donc on a vraiment un traitement identique du monument depuis l'extrémité occidentale, au revers des tours de la façade, jusque l'abside. À l'intérieur, donc, suivant l'endroit où on se place, dans le vaisseau central, dans le premier bas-côté ou dans le second bas-côté, on a évidemment des aperçus très, très changeants sur le monument, qui peuvent aller jusqu'à superposer 5 niveaux d'élévation. Si on ajoute aux trois niveaux du vaisseau principal, les trois qui caractérisent l'élévation du bas-côté intérieur. Alors, sur la photo, vous n'en voyez que un, ces fenêtres hautes ici, et la pointe d'une coursière qu'on appelle le triforium, et il manque évidemment sur la photo les arcades qui donnent sur le bas-côté extérieur. Donc la coupe longitudinale, évidemment, aplatit le volume de la cathédrale sur cette représentation en deux dimensions, inévitablement, et évidemment, on rend bien compte de l'extraordinaire richesse des lignes architecturales du monument, donc de cet espace unifié. Alors, je termine avec cette vue à la fois du vaisseau central avec ses dégagements latéraux que j'ai déjà soulignés, ou depuis les bas-côtés vers l'abside hémicirculaire. Donc cet enchevêtrement de lignes verticales, mais aussi cette fusion de l'espace intérieur. Rarement, avant la cathédrale de Bourges, on est parvenu donc à suggérer un volume à la fois unitaire et si varié dans sa perception. Alors, je vous l'ai dit, la cathédrale de Bourges est contemporaine de la cathédrale de Chartres, qui a été commencée en 1195, après qu'un incendie en 1194 eut gravement endommagé la cathédrale romane précédente. Les deux chantiers vont progresser à un rythme très rapide. Le gros œuvre de la cathédrale de Chartres est terminé vers 1220, c'est-à-dire 25 années, un quart de siècle, pour construire un édifice aussi gigantesque. C'est tout à fait remarquable. En ce qui concerne Bourges, eh bien, je vous l'ai dit, la mise en chantier par le chœur et évidemment d'abord la crypte qui le soutient se place aussi vers 1195 et ce chœur était terminé en 1212, donc 17 années, pour construire à peu près la moitié orientale de la cathédrale. Il en faudra un peu plus pour l'achèvement de la nef et de la façade dans son premier état, j'y reviendrai un peu plus tard, tout cela étant terminé vers 1250. Mais au regard de la norme, si l'on peut dire, de la durée des chantiers de cathédrale gothique, 55 ans à peu près à Bourges, c'est aussi un rythme très très rapide qui se justifie sans doute, s'explique sans doute par l'abondance des ressources à l'échelle non pas de la ville de Bourges, mais du diocèse de Bourges et plus largement de la province ecclésiastique d'Aquitaine première, dont Bourges était la métropole et qui correspond, on va y revenir, la partie centrale de la France actuelle, si l'on veut, et puis aussi des financements ponctuels venant d'autres régions, mais j'y reviendrai également. Par rapport à la cathédrale de Chartres, la cathédrale de Bourges, dont l'architecture est beaucoup plus originale, dont la postérité a été jugée beaucoup plus réduite, eh bien, la cathédrale de Bourges a souffert, dans le domaine de l'historiographie, d'un manque d'intérêt qui est corrigé par les études plus récentes. D'abord une thèse d'un éminent historien de l'architecture américain, Robert Brunner, qui était professeur à l'Université de Columbia de début des années 60 jusqu'à son décès prématuré en 1973, puis plus récemment par une série d'études collectives qui ont fait l'objet d'une publication dans les volumes de la collection La Grâce d'une cathédrale chez la Nuée Bleue, et puis également deux colloques organisés successivement en 2009-2012 et publiés par la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre en 2017, donc tout récemment, et qui, évidemment, essaie de corriger cette réputation trop modeste de la cathédrale de Bourges à l'horizon de l'ensemble de l'architecture gothique de la fin du XIIe et de la première moitié du XIIIe siècle. Alors, si on cherche à définir les sources de la cathédrale de Bourges, de l'architecture de la cathédrale de Bourges, on se rend compte que l'historiographie a longtemps privilégié évidemment des monuments de la deuxième moitié du XIIe siècle, situés dans le nord de la France au sens large, c'est-à-dire au nord de la Loire. À commencer par Notre-Dame de Paris et la confrontation des deux plans de cathédrale, Paris à gauche et Bourges à droite, évidemment, met en évidence certaines analogies, la compacité du plan, l'existence dans les deux cas de doubles bas-côtés, aussi bien dans la nef que le long du chœur. Mais la différence, évidemment, à Notre-Dame de Paris, c'est qu'on a un transept, donc un vaisseau transversal, et on a bien un plan en croix, ce qui est absent à Bourges. Les dimensions sont supérieures à Bourges par rapport à Paris. Ce croquis qui est tiré d'un ouvrage de Marcel Aubert de 1962 n'est pas rigoureusement exact. La hauteur du chœur de Notre-Dame de Paris est de 31 mètres. Dans le vaisseau central, c'est plus de 35 mètres à la cathédrale de Bourges. Et puis surtout, l'élévation est différente à Bourges, comme le montrent évidemment ces deux photos prises à peu près du même point de vue, donc de la tribune d'orgue dans les deux cas. À Bourges, donc c'est ce premier niveau, ce qu'on appelle les grandes arcades, qui sont démesurées, qui atteignent 21 mètres de hauteur par rapport aux 35-36 mètres de hauteur d'élévation, c'est évidemment plus de la moitié, alors qu'à Paris, le premier niveau des grandes arcades, dans l'état actuel de la cathédrale, atteint à peu près un tiers de l'élévation. Et puis à Paris, nous avons de véritables tribunes, c'est-à-dire un vaisseau disposé en étage, de la même largeur que le bas-côté, alors qu'à Bourges, on a une simple coursière, donc beaucoup plus réduite en épaisseur, qui permet le passage d'une personne et pas de deux de front, et au-dessus, évidemment, des fenêtres hautes, assez courtes en proportion, mais il faudrait restituer à Notre-Dame de Paris, initialement, des fenêtres hautes également assez courtes, donc qui ne descendaient pas au-dessous de cette ligne, c'est-à-dire correspondant au chapiteau placé aux retombées des voûtes, et l'espace en dessous était occupé initialement par de grandes ouvertures circulaires, des oculi, qui donnaient sur les combles, obscurs évidemment, des tribunes. Viollet-le-Duc, donc, qui a restauré Notre-Dame de Paris vers le milieu du XIXe siècle, les a restituées dans le transept et dans les travées de la nef et du chœur contiguës à la croisée, donc la dernière travée de la nef, vous le distinguez peut-être ici, également la première travée du chœur. Donc une élévation à Notre-Dame de Paris, c'est le terme qu'on emploie pour décrire la succession dans un plan vertical de la construction du vaisseau principal, l'élévation est très différente à Bourges par rapport à Notre-Dame de Paris. Un autre monument qui a été présenté plus récemment comme une des sources potentielles de l'architecture de la cathédrale de Bourges, c'est la cathédrale de Sens. Donc nous sommes maintenant en Bourgogne. Mais Sens, au Moyen-Âge, est une métropole ecclésiastique, donc au même titre que Bourges. Une province ecclésiastique, qui s'étend sur une bonne partie de l'Île-de-France. Paris, au Moyen-Âge, dépend, du point de vue hiérarchique, le siège épiscopal de Paris dépend de la métropole de Sens. Paris n'est devenu archevêché qu'en 1622, sous le règne de Louis XIII, mais durant toute la durée du Moyen-Âge, si vous voulez, l'archevêque de Sens avait autorité sur l'évêque de Paris. La cathédrale de Sens est un des prototypes de l'architecture gothique, commencée vers 1140, donc une vingtaine d'années avant Notre-Dame de Paris, évidemment bien avant la cathédrale de Bourges. Son cœur est consacré en 1164, mais à l'extrême fin du XIIe siècle, le chantier n'est pas clos, puisqu'il concerne encore l'extrémité occidentale de la nef et sa façade. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la confrontation de ces deux vues du vaisseau principal montre évidemment des proportions très différentes. Le vaisseau principal de Sens ne dépasse pas 25 mètres de hauteur, donc c'est plus de 10 mètres en moins que les dimensions de Bourges. On a dans les deux cas quand même un premier niveau des grandes arcades qui est proportionnellement très très important, qui dépasse à Sens déjà la moitié de la hauteur totale de l'élévation. Mais après, dans le traitement de détails, c'est très différent. On a un seul type de pilier à Bourges, une sorte de pilier à noyau cylindrique sur lequel sont greffées des fines colonnettes engagées, 8 au total, alors qu'à Sens, on a ce qu'on appelle une alternance des supports très marquée qui font se succéder des énormes piliers fasciculés avec une douzaine de colonnettes et des colonnes géminées simplement au temps faible. Toutes choses qui, évidemment, ne sont pas reprises à la cathédrale de Bourges. Autre point commun, quand même, c'est la présence, mais également à Notre-Dame de Paris, de voûtes sexpartites, c'est-à-dire des voûtes auxquels s'ajoutent aux deux diagonales un arc intermédiaire et qui subdivise en 6 éléments, évidemment, la surface couverte par la totalité de la voûte. Et on retrouve ce type de voûte également à la cathédrale de Bourges. Les recherches menées récemment par Yves Gallet ont montré que si on superpose les plans des chevets des deux cathédrales de Sens et de Bourges, on retrouve un certain nombre de correspondance. Il faudrait pousser plus loin, évidemment, avec des relevés beaucoup plus précis que les technologies du scanner laser, par exemple, permettent actuellement de faire. Donc c'est un travail à mener. Ici, c'est déjà très éloquent, mais à partir de plans publiés qui sont évidemment assez schématiques. Mais vous voyez que les rythmes d'espacement des contreforts à la périphérie du chevet de la cathédrale de Sens suivent à peu près le même intervalle que les supports séparant les deux déambulatoires de la cathédrale de Bourges. L'échelle, évidemment, de Bourges est supérieure, donc une volonté, en quelque sorte, de renchérir sur l'échelle des édifices précédents. Et une restitution de la cathédrale de Sens avant 1267, qui est la date d'une catastrophe, l'effondrement de la tour sud de la façade qui endommageait une bonne partie de la nef de cette cathédrale. On voit là une restitution évidemment très hypothétique puisqu'on n'en a jamais eu aucune représentation figurée avant la catastrophe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce dessin, donc publié par Alain Ville dans les actes du colloque qui s'était tenu à Sens en 2014 à l'occasion du 850e anniversaire de la consécration du cœur en 1164, organisée par la Société archéologique de Sens, il montre une cathédrale qui, à l'époque, était dépourvue de transept, ce qui n'est plus le cas maintenant, à la suite de transformations de la fin du Moyen-Âge. Et évidemment, cette silhouette avec un unique vaisseau longitudinal, flanqué à Sens de bas-côté simple et pas double, comme à Bourges, la présence dès l'origine à Sens d'arcs-boutants, qui sont démultipliés à Bourges, permet quand même d'envisager une forme de référence à Bourges envers ce monument plus ancien, très important, que constitue la cathédrale de Sens. Alors, on a aussi mis en évidence des liens entre Bourges et la plus grande église romane qui ait jamais été élevé, la grande abbatiale de Cluny, la troisième sur le site donc, de cette abbaye chef d'ordre fondée donc, dans le sud de la Bourgogne au début du Xe siècle. L'église en question a été reconstruite à la fin du XIe et terminée vers 1130, et notamment dans la nef. Donc il ne reste de l'église que le bras sud du transept et une chapelle du petit transept. C'est une des grandes pertes, évidemment, de l'architecture médiévale. Mais dans la nef, donc, qu'on connaît par différentes représentations antérieures à la Révolution, et puis également les recherches archéologiques menées sur le site, eh bien, on se trouvait en présence, déjà, donc avant 1130, d'un édifice à cinq vaisseaux échelonnés, dominés par le vaisseau central, mais avec, vous voyez, des bas-côtés intérieurs plus hauts que les bas-côtés extérieurs. Alors, le fait que l'archevêque de Bourges, initiateur du chantier de reconstruction de la cathédrale, Henri de Sully, donc vers 1195, était le neveu de l'abbé de Cluny à l'époque, appartenant à la même famille, une grande famille aristocratique originaire donc de Sully-sur-Loire, peut expliquer ponctuellement les liens entre la cathédrale de Bourges et la grande abbatiale de Cluny, mais il faut sans doute aller plus loin pour trouver les sources qui ont dicté donc ce parti à cinq vaisseaux, donc parti très déclamatoire, très ambitieux, à cinq vaisseaux échelonnés, et remonter encore plus haut jusqu'à l'époque paléochrétienne, c'est-à-dire 4e et 5e siècle, où ce genre d'église, pour les monuments les plus ambitieux, ce genre d'architecture a été adopté. Montre l'exemple évidemment de la première église de Saint-Pierre du Vatican à Rome, qui a été évidemment sacrifiée pour la construction de l'actuelle basilique. Vous en avez ici une coupe un peu schématique, représentée sur une fresque du Vatican, qui montre bien l'édifice à cinq vaisseaux, donc le parti basilical, donc d'un vaisseau principal plus large et nettement plus haut, directement éclairé et flanqué par des doubles bas-côtés étagés. La basilique de Saint-Pierre de Rome, comme toutes les basiliques de ce type, au IVe et Ve siècle, n'était pas voûtée. Seule l'abside hémicirculaire où trônait le pape l'était, en cul de four, donc en quart de sphère. En revanche, tout le reste de l'édifice était charpenté. Mais ce parti donc, à cinq vaisseaux échelonnés remonte bien jusqu'à cette période donc, des premières grandes églises. Alors évidemment, la cathédrale de Bourges décline avec la grammaire gothique ce parti architectural, donc en voûtant en pierre, des voûtes d'ogives, la totalité du monument et en assurant son équilibre par système d'arc-boutants, évidemment, qui n'ont pas lieu d'exister, évidemment, à Rome, une structure charpentée, évidemment, beaucoup plus légère qu'une structure voûtée en pierre. Alors, plutôt qu'avec Saint-Pierre du Vatican, c'est, je pense, avec Saint-Jean de Latran, notre grande basilique, qui remonte pareillement au début du IVe siècle, juste après la paix de l'Église, hein, quand Constantin, en 313, met fin aux persécutions des chrétiens et reconnaît l'existence de la religion chrétienne, Saint-Jean de Latran, qui est toujours la cathédrale de Rome. Donc, et comme l'indiquait une inscription qui remonte au moins à la fin du XIIe siècle, donc juste avant la mise en chantier de la cathédrale de Bourges, et qui a été rétablie sur l'actuelle façade baroque du XVIIIe siècle, la cathédrale Saint-Jean de Latran était la mère de toutes les églises de Rome et du monde. Donc, Mater Omnium Ecclesiarum Orbis et Urbis. Alors, au-delà de la formule, évidemment, qui est très, très déclamatoire, cette expression qui est exposée à la vue de tout le monde, correspond bien à une réalité, celle évidemment d'affirmer la hiérarchie de l'Église catholique, évidemment soumise à son chef suprême, qui est le pape. Et il est intéressant de se poser la question si l'architecture, parallèlement donc à cette organisation administrative, si vous voulez, de l'Église catholique, si l'architecture ne répond pas aux mêmes à la même hiérarchie, donc en déclinant depuis Rome et l'église principale, en tout cas à l'époque qui nous intéresse, au XIIe et au XIIIe siècle, Saint-Jean de Latran. Le pape réside à l'époque préférentiellement dans le palais du Latran. Ce n'est qu'après le retour d'Avignon, donc à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, que les papes privilégieront la résidence du Vatican, qui est toujours évidemment le siège de la papauté. Donc cette église Saint-Jean de Latran remontait au début du IVe siècle. Elle a été évidemment profondément transformée au cours des siècles successifs, et notamment au XVIe siècle par la mise en place d'un plafond somptueux à caissons qui est encore conservé, et puis au XVIIe siècle par la réorganisation par Borromini, génial architecte baroque, qui a habillé complètement, donc par un système de stuc, la cathédrale. Mais sous cet habillage baroque subsiste toujours la basilique paléochrétienne. Alors, c'est le travail donc, des historiens de l'architecture, des archéologues, d'essayer de restituer cette basilique paléochrétienne. Donc, vous avez un plan à côté donc, qui montre bien un édifice à cinq vaisseaux qui, au départ, était dépourvu de transept. Le transept, au plus tôt, a été construit à l'extrême fin du XIIe siècle, donc à l'époque où on conçoit la cathédrale de Bourges, vraisemblablement, Saint-Jean de Latran est toujours dépourvu de transept, ce qui expliquerait aussi l'absence de ce transept à Bourges. Pardon. Voilà une restitution en axonométrie, donc en perspective corrigée de déformation optique, qui vous montre donc évidemment au-dessus des cinq vaisseaux, l'élévation du vaisseau principal, deux fois plus large que les bas-côtés, et qui étaient eux aussi échelonnés, mais pareillement, comme au Vatican, simplement charpentés. Les deux traits centraux ne sont, enfin, concrétisent seulement donc, une allée triomphale qu'empruntait le clergé pour aller depuis l'entrée de la cathédrale jusqu'au cœur, donc séparés des fidèles qui, eux, se tenaient debout dans les espaces latéraux. Voilà une peinture donc, du XVIIe siècle de Gagliardi dans l'église San Martino ai Monti à Rome, qui nous montre l'intérieur de Saint-Jean de Latran avant les transformations par Borromini, donc église à fil de colonne, des remplois antiques, en marbre ou en porphyre, supportant des arcs en plein cintre et le vaisseau central directement éclairé au-dessus. On ne retrouve pas, enfin Bourges va renchérir évidemment en dimension. La hauteur sous voûte de Saint-Pierre du Vatican, dans son état paléochrétien, enfin la hauteur de la charpente, pardon, est de 28 mètres, c'est déjà considérable. C'est un peu moins à Saint-Jean de Latran. Vous voyez, Bourges renchérit sur le gigantisme de ces édifices de la fin de l'Antiquité, auréolé évidemment du prestige à Rome d'abriter la tombe du premier pape, Saint-Pierre, le prince des apôtres, à Saint-Jean de Latran également de posséder quantité de reliques des disciples. Donc il ne faut pas chercher évidemment la reproduction exacte du plan de Saint-Jean de Latran à la cathédrale de Bourges, mais il y a quand même un certain nombre de données, ces cinq vaisseaux étagés, ce parti basilical donc d'une architecture très allongée, avec le vaisseau central dominant, plus large, plus haut et directement éclairé. On peut ajouter aussi que le double déambulatoire, donc ces deux demi-cercles concentriques qui terminent la cathédrale à l'est et qui permettent donc d'en faire la circulation sans aucun obstacle, était déjà peut-être présent à Saint-Jean de Latran, mais tout cela a disparu lors des profonde restauration du XIXe siècle, depuis peut-être le pontificat de Léon le Grand, donc on est au VIe siècle, avec la construction de deux couloirs semi-circulaires pour permettre aux fidèles de se recueillir à proximité des reliques à l'extrémité donc, de l'église. Et donc on aurait en germe un dispositif qui serait repris à la cathédrale de Bourges, mais qui peut aussi emprunter à d'autres édifices paléochrétiens ce principe donc, de vaisseau annulaire, concentrique, comme ici à San Stefano Rotondo. On pourrait citer d'autres exemples de basiliques funéraires aux abords donc de la ville de Rome. Alors, ce rapport de Bourges avec Rome, il n'est pas que architectural, ni simplement le reflet d'une hiérarchie ecclésiastique qui place au sommet évidemment le pape, et puis au-dessous d'abord les archevêques, puis les évêques, puis l'ensemble du clergé, parce que la situation de Bourges à ce moment-là pourrait être mise sur le même plan que les églises métropolitaines de Sens, de Rouen, de Lyon, pourquoi pas de Bordeaux, nous y reviendrons tout à l'heure. Non, les rapports entre Rome et Bourges dans la deuxième moitié du XIIe siècle sont particulièrement étroits, du fait que à partir de 1146, c'est la plus ancienne occurrence, eh bien, pratiquement tous les papes, à commencer par Eugène III, jusqu'à la fin du XIIe siècle, vont appuyer les prétentions de l'archevêque et du chapitre des chanoines de Bourges à la primatie, c'est-à-dire à détenir la place la plus éminente, à l'échelle non pas seulement de leur province ecclésiastique, ce qu'on appelle l'Aquitaine première, qui est la partie centrale donc, de la France actuellement, mais également de l'ensemble de l'Aquitaine, c'est-à-dire aussi l'Aquitaine seconde, dont la métropole est Bordeaux, et la Novem Populanie, ou l'Aquitaine troisième, qui est grosso modo la Gascogne actuelle avec Auch comme capitale religieuse. Donc ces prétentions des archevêques et de Bourges et de leur clergé vont être soutenues par le pape, mais évidemment il y aura une forte résistance, nous y reviendrons, de la part des clergés des provinces de Bordeaux et d'Auch, mais à l'extrême fin du XIIe siècle, donc sous l'épiscopat de Henri de Sully, qui lance donc la reconstruction de la cathédrale, eh bien, le pape à l'époque Urbain III, qui a été auparavant chanoine de Bourges, donc il connaît bien l'église locale, eh bien, appuie encore plus que ses prédécesseurs ses prétentions à la primatie sur l'Aquitaine, et il fait même de Henri de Sully le légat pontifical pour le royaume de France, c'est-à-dire le représentant du pape, son ambassadeur, avec autorité évidemment sur l'ensemble du clergé du royaume. Et donc aucune église dans le royaume de France à cette époque-là ne peut prétendre avoir des relations aussi étroites que l'église de Bourges. Alors, pour illustrer un peu la situation romaine à l'époque qui nous intéresse, aux alentours de 1200, je vous montre évidemment une œuvre qui est nettement plus récente, d'un siècle à peu près, cette fameuse fresque de Giotto dans la basilique supérieure de Saint-François d'Assise, qui vous montre le songe du pape Innocent III, donc qui était pape entre 1198 et 1216, donc l'époque où s'élève le cœur de la cathédrale de Bourges, et qui, en rêve, voit son église menacée de ruines, et sur la fresque, Giotto a représenté pour l'Église, c'est-à-dire l'institution qui est assise dans son ensemble, il l'a symbolisé justement par la façade et un des clochers de Saint-Jean de Latran. Et dans le songe d'Innocent III, celui qui évite la ruine et redresse l'Église, c'est Saint-François. Évidemment, nous sommes dans la basilique pontificale qui abrite donc la dépouille de Saint-François depuis sa mort en 1228. Et donc, après cette parenthèse, évidemment, il faut revenir à la situation à Bourges. Il y a un ensemble figuré de la première importance qui expose aussi ces liens très très étroits entre Bourges et Rome. C'est le portail dédié à Saint Ursin, donc premier évêque de Bourges, dont on fait l'apôtre du Berry, donc de la région dont Bourges est la capitale. C'est un des portails de la façade occidentale qui se trouve à son extrémité méridionale et qui a été réalisé vers 1220-1230 à peu près, et qu'on peut donc analyser. Il se lit étrangement de droite à gauche, alors que la plupart du temps, c'est un pan de portail, se lise comme une page, de gauche à droite, même si c'est toujours de bas en haut et pas de haut en bas comme le sens de lecture. Et donc il faut commencer ici avec la mission confiée par Saint-Pierre, donc premier pape qu'on reconnaît à ses clés évidemment et à sa tiare pontificale, mission confiée à Saint-Ursin, enfin à Ursin, et à son compagnon, Vite, Déité, d'aller évangéliser le Berry. On voit donc les deux personnages avec leur bâton de pèlerin se déplacer Malheureusement, le disciple d'Ursin meurt en cours de route, et donc Ursin l'ensevelit. On voit l'âme du défunt qui monte au ciel. Ursin parvient à la porte de la ville de Bourges, qu'il franchit pour immédiatement prêcher la religion chrétienne donc, aux habitants de Bourges. On le voit au-dessus dans le registre central, donc consacré, procéder à la consécration de la première cathédrale, qui prend l'allure de certains aspects de la cathédrale gothique, donc un parfait anachronisme, mais l'époque, le XIIIe siècle, n'est pas sensible à ces questions-là. Donc il bénit la nouvelle cathédrale, et vous voyez qu'il porte dans la main gauche un petit coffret, qu'il avait déjà d'ailleurs en bas, et qui contient des linges tachés du sang de Saint-Étienne, qui va devenir évidemment le patron de la cathédrale. Et c'est un autre lien avec Rome, puisque Saint-Étienne a été martyrisé à Rome. Il y a plusieurs églises, hein, San Stefano in Via, San Stefano Panisperna, le lieu de l'emprisonnement, du martyr, évidemment, San Lorenzo Fuori dei Mura, pour le lieu d'inhumation en dehors de la ville antique. Et à côté, Saint Ursin est en train de confesser Léocadius, le gouverneur romain, qu'il va amener à la conversion, lui et son fils, la scène ultime. Donc, scène d'apostolat, missionnée par Saint-Pierre lui-même. Donc, on peut dire que les évêques, puis archevêques de Bourges, se placent dans la continuité depuis la première mission confiée par Saint-Pierre à Saint-Ursin. Alors, à l'époque, donc, Bourges est officiellement donc chef-lieu de la province ecclésiastique d'Aquitaine première. Le diocèse de Bourges se trouve au sommet, enfin à l'extrémité nord, pardon, de la province, qui descend jusque, voyez, Albi et Rodez. Il y a d'autres diocèses qui vont être créés au XIVe siècle, mais qui sortent de notre tranche chronologique au moment de la papauté d'Avignon, comme Castres notamment. Et puis nous allons parler évidemment maintenant de la province ecclésiastique de Bordeaux, l'Aquitaine seconde, qui s'élève au nord à peu près jusqu'à la même latitude avec les diocèses, le diocèse de Poitiers, démembré ultérieurement d'autres diocèses, Maizet et Luçon, et dans une moindre mesure de l'Aquitaine troisième avec Auch comme capitale. Donc évidemment les prétentions des archevêques de Bourges d'avoir autorité sur ces trois régions trahit évidemment un pouvoir très, 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 très ambitieux qui se heurte évidemment à des résistances régionales. Alors si maintenant nous braquons en quelque sorte notre regard sur ces régions donc occidentales de l'Aquitaine, sur lesquels donc le clergé de Bourges a des vues, on peut s'attarder sur un des monuments évidemment les plus importants de la deuxième moitié du XIIIe siècle, qui est la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, donc dans le nord de la province ecclésiastique de Bordeaux, qui a été commencée vers le milieu du XIIe siècle. Donc c'est un monument très, très précoce dans l'histoire de l'architecture gothique dite plantagenêt, donc de l'ouest de la France, à l'époque où il était dominé par cette dynastie qui régnait aussi sur l'Angleterre, en la personne d'abord de Henri II, puis Richard Cœur de Lion, etc. Une date qui figure sur la clé de voûte de la travée la plus orientale, donc juste avant l'abside, mentionne donc la date de 1157. Ce qui, évidemment, implique un début de construction vers 1150 au plus tard. Le chantier s'est déroulé sur plusieurs décennies, évidemment. On date en général de la dernière décennie du XIIe siècle, dans les années 1190, la première travée du chœur actuel que vous avez ici, où on augmente légèrement la hauteur du vaisseau principal, notamment, comme des bas-côtés. Alors, je vais revenir sur l'architecture de cet édifice, donc avec des masses très compactes, comme vous le distinguez sur cette vue d'ensemble, mais très différentes des masses de la cathédrale de Bourges. C'est un chevet plat, même si dans l'épaisseur du mur sont ménagées des absidioles hémicirculaires visibles à l'intérieur, mais ce n'est pas du tout un double déambulatoire semi-circulaire, il n'y a pas de chapelle rayonnante. Et puis, c'est un seul toit qui couvre l'ensemble des trois vaisseaux, et non pas cinq, comme à Bourges, de la cathédrale de Poitiers. En outre, il y a un transept, bon, dont la toiture est plus modeste, mais qui forme quand même un bras transversal tout à fait absent de la cathédrale de Bourges. Donc on pourrait penser qu'il n'y a pas de rapport particulier dans l'architecture entre ces deux édifices, la cathédrale de Poitiers étant antérieure à la cathédrale de Bourges. Voilà un plan. Les parties les plus anciennes de Poitiers se trouvent ici, avec des voûtes quadripartites, donc, où les arcs se limitent aux deux diagonales. Le voûtement est plus complexe dans les parties plus récentes. D'abord la première travée du chœur, puis le transept et la nef, avec l'adjonction d'arcs supplémentaires, donc perpendiculaires, ce qu'on appelle des liernes, et donc un traitement différent, une fois de plus, de ce qu'on va trouver plus tard à la cathédrale de Bourges. Deux vues de perspective longitudinale axées sur le vaisseau principal montrent évidemment une différence. Trois vaisseaux à Poitiers, cinq à Bourges. Et évidemment, la principale différence, c'est qu'à Poitiers, on est en présence d'une église qu'on qualifie de type halle, parce que les trois vaisseaux, ici en l'occurrence, sont à peu près la même hauteur. En tout cas, le vaisseau principal n'est pas directement éclairé. Il n'y a pas de fenêtre haute. Et donc, ce sont des arcades gigantesques qui ouvrent sur toute la hauteur, pratiquement du vaisseau central, vers les bas-côtés. Donc, un parti radicalement différent de ce qu'on va trouver à Bourges. Si l'on confronte deux coupes transversales de ces deux cathédrales, il faut à ce moment-là un petit peu moduler l'antagonisme qu'on a souligné jusqu'à maintenant entre les deux édifices, puisqu'on a davantage encore dans la nef, ce qui figure en bas, que dans le chœur, la partie la plus ancienne, eh bien, une dilatation de l'espace intérieur, une forme d'unification que permet donc la très grande hauteur des collatéraux de part et d'autre du vaisseau principal. Et si on pousse un peu plus loin la comparaison, à partir des mesures exactes qu'a prises avec un scanner laser Andrew Talon, donc un historien de l'architecture américain prématurément décédé à la fin de l'année dernière, eh bien, vous voyez que le vaisseau central de Poitiers dans le chœur atteint 24,80 m. Et le collatéral, il n'en a représenté qu'un, mais il faudrait en représenter un autre en symétrique, 21 mètres. Et 21 mètres, c'est la hauteur du bas-côté intérieur de la cathédrale de Bourges, dont le vaisseau principal, certes, s'élève beaucoup plus haut. Mais on peut se demander si l'architecte de la cathédrale de Bourges, au terme peut-être de discussion avec le clergé de la cathédrale, n'a pas défini cette hauteur du bas-côté intérieur de Bourges en se calant en quelque sorte sur les dimensions très importantes de ce bas-côté dans le cœur de la cathédrale de Poitiers, antérieure, vous voyez, de plusieurs décennies à la cathédrale de Bourges. Donc une manière d'affirmer une fois de plus la suprématie de Bourges, puisque le vaisseau central, sans aucun conteste, évidemment, l'emporte sur les dimensions du vaisseau principal de Poitiers. Mais cette hauteur, donc, très importante du bas-côté intérieur de Bourges par rapport aux édifices que je vous ai cités, Notre-Dame de Paris et la cathédrale de Sens, par exemple, eh bien, ne trouve d'équivalent qu'à Poitiers, qui pourrait donc former, en quelque sorte, la jauge à partir de laquelle on a défini cette échelle du bas-côté à la cathédrale de Bourges. Si on élargit l'angle de vue de ce monument de Poitiers, donc de la cathédrale de Poitiers, au contexte politique. Il ne faut pas perdre de vue, évidemment, que Poitiers est une capitale importante. Siège des ducs d'Aquitaine, Guillaume VII, le père d'Aliénor d'Aquitaine, donc qui, après avoir épousé en première noce Louis VII, au terme d'un divorce, donc. Il n'était sans doute pas très habile du point de vue politique, à côté français, à épouser le roi d'Angleterre, Henri II, ce qui va augmenter considérablement, évidemment, les possessions Plantagenet sur le continent. Et le couple d'Aliénor et de Henri II figure en donateur de la fenêtre axiale de la cathédrale de Poitiers, à l'extrémité du vaisseau principal, qui miraculeusement nous est parvenu, donc un vitrail de la deuxième moitié du XIIe siècle, tout en bas de cette verrière, évidemment, où l'on trouve le martyr de Saint-Pierre, le patron de la cathédrale, sous la crucifixion et l'ascension du Christ. C'est dire, donc, évidemment, la dimension politique de ce chantier de la cathédrale de Poitiers. On a évoqué aussi l'intervention de Henri II d'Angleterre dans le chantier de la nef de la cathédrale de Bordeaux. On y reviendra. Et il ne faut pas oublier que à cette époque-là, donc on se place dans la deuxième moitié du XIIe siècle, juste avant la mise en chantier de la cathédrale de Bourges. On a certes, à gauche, je vous remontre la carte des provinces ecclésiastiques, mais il ne faut pas perdre de vue que la géographie se double évidemment d'une situation politique qui est très différente, avec notamment encore vers 1180, et c'est la situation qui va perdurer jusqu'au tout début du XIIIe siècle, au moins jusqu'à la mort de Richard Cœur de Lion en 1199, eh bien, un domaine royal, celui des rois de France, qui est très limité, c'est ce qui figure ici en bleu, c'est-à-dire le territoire sur lequel le roi de France exerce directement son autorité, sans l'intermédiaire des princes territoriaux, qui ont tendance d'ailleurs à échapper à sa tutelle, comte de Flandre, comte de Champagne, duc de Bourgogne, etc. Et ce qui figure ici en rouge, c'est évidemment les possessions plantagenêtes qui sont évidemment en superficie infiniment supérieure, la Normandie, la Bretagne, le Maine et l'Anjou, la Touraine, le Poitou, l'Aquitaine et une bonne partie de l'Auvergne, etc. Donc un danger évidemment très très grave pour la royauté française, qui ne dispose que de quelques points sûrs de soutien, parmi lesquels le Berry, une partie du Berry, et notamment le siège métropolitain de Bourges, qui est un diocèse, un évêché pardon, royal, c'est-à-dire qu'en cas de vacances, lorsque l'archevêque meurt et avant l'élection et la confirmation par le pape de son successeur, eh bien, le roi peut exploiter les ressources de l'évêché qui sont considérables, hein, à Bourges comme ailleurs. Et donc le roi de France est très soucieux de savoir qui va prendre, qui est installé, qui sera installé sur le siège de Bourges à chaque succession, évidemment. Et on se rend compte que les titulaires du siège archiépiscopal de Bourges, dans la deuxième moitié du XIIe siècle et encore au-delà, sont en général assez proches du roi de France ou ont mené une carrière antérieurement dans le nord de la France et sont en quelque sorte des agents au service du roi de France, je caricature un peu, que le roi, évidemment, va utiliser dans sa résistance au domaine plantagenêt, ce qui explique, évidemment, les prétentions du siège métropolitain de Bourges sur l'Aquitaine, donc qui, en grande partie, à l'époque, évidemment, était aux mains des plantagenêts. Donc, le contexte politique, évidemment, vient considérablement modifier la donne, ou expliquer un petit peu les vicissitudes de l'histoire ecclésiastique de cette période dans cette région occidentale. À la fin du règne de Philippe Auguste, hein, qui meurt en 1223, évidemment au terme de quantité de campagnes militaires, etc., vous voyez, le domaine plantagenêt est très réduit, une région que vous connaissez bien, évidemment. Le littoral atlantique, une partie de la Gascogne, la Guyenne, avec Bordeaux évidemment toujours, et ça le restera évidemment encore bien longtemps, au cœur de cette présence anglaise sur le territoire du royaume. Mais donc à l'époque où le chantier de la cathédrale de Bourges est lancé, vers 1195, eh bien, en effet, la situation est très difficile pour le roi de France. On est plus près de la situation de 1180 que de 1223. Et ça peut expliquer donc, ce choix donc, éminemment politique d'une architecture qui se réfère certes à Bourges aux sources du gothique du nord de la France, mais aussi aux sources romaines, qui sont évidemment la garantie suprême d'une autonomie, en tout cas d'un soutien aussi de la part de l'autorité pontificale. Alors, il y a un autre point sur lequel on peut développer l'hypothèse de l'assimilation par le chantier de la cathédrale de Bourges de tradition qu'on pourrait qualifier d'Aquitaine au sens large, de l'ouest de la France, c'est dans la dilatation, donc la priorité donnée à l'extension en largeur de la façade de la cathédrale de Bourges, à droite, par rapport à la hauteur, qui est le plus souvent privilégiée dans les façades des grandes cathédrales du nord de la France, c'est-à-dire au nord de la Loire. Et là encore, on peut faire la comparaison entre Poitiers et Bourges, donc la façade de Poitiers à gauche, même si la façade de Poitiers est dans la plus grande partie postérieure à la cathédrale de Bourges, très restaurée, Poitiers, dans le courant du XIXe siècle, au niveau de la rose et du couronnement de la partie centrale. Vous voyez, avec cette composition un peu en cinq parties, des tours isolées aux extrémités, trois portails au centre, on a évidemment une dilatation de l'ensemble qu'on va retrouver à Bourges, dans une composition peut-être plus unifiée, puisque ce sont cinq portails contigus d'un bout à l'autre de la façade. Alors, cette façade de Bourges, elle a été commencée aux alentours de 1220, il n'y a pas de repère chronologique précis. Elle ne se présente plus dans son état d'origine, puisqu'il y a une catastrophe en 1506. La nuit entre le 31 décembre et le 1er janvier 1507, donc triste manière de fêter le passage de la nouvelle année, la tour nord s'est effondrée. Et donc elle a été reconstruite dans les années qui ont suivi, très très rapidement, en une quinzaine d'années à peu près, avec des proportions différentes de la tour sud et une emprise au sol beaucoup plus massive pour éviter évidemment tout nouveau risque d'effondrement. Donc il faut essayer de restituer une façade du XIIIe siècle vraisemblablement symétrique, donc c'est le dessin assez schématique qui figure à gauche, qui par miroir, par effet de miroir, donc dédouble la moitié de droite, c'est-à-dire sud, qui subsiste, pour la reporter vers le nord, mais on a déjà cinq portails, et puis cette composition avec des contreforts très saillants, qui forme une avancée très très marquée sur le plan vertical du frontispice, qui lui est animé par des superpositions de registres d'arcades, de fenêtres sur trois niveaux, avec des coursières, donc des passages extérieurs permettant de circuler à chacun de ces niveaux. Voilà, une autre restitution de la façade, non pas dans l'état du XIIIe siècle, mais au début du XIVe siècle, après qu'on eut refait la partie centrale qui existe encore, qu'on appelle sur place le grand housteau, qui est une immense fenêtre garnie de vitraux, qui n'est pas, comme on l'a longtemps écrit, de l'époque du duc de Berry, de l'extrême fin du XIVe, début du XVe, mais bien avant du début du XIVe siècle. Ça, c'est une restitution par Patrick Ponceau, l'architecte en chef des monuments historiques, responsable encore actuellement de la cathédrale. Cette dilatation donc de la façade de Bourges, plus large qu'elle n'est haute, elle peut être rapprochée, en dehors de la façade de Poitiers, qui est en grande partie postérieure, d'une longue tradition. Alors, je vous montre la façade de la cathédrale d'Angoulême, vous allez me dire, elle est quand même plus haute qu'elle n'est large, mais on y trouve déjà, dans cette façade romane, une composition en cinq parties, rythmée par ces colonnettes reliées au sommet par des arcades. Et c'est ce même rythme qu'on trouve, évidemment, traité complètement différemment à la façade de la cathédrale de Bourges. Donc c'est très différent de ce qu'on rencontre par exemple dans les façades du nord de la France, comme la façade de Paris, 40 mètres de large, 69 mètres de haut, évidemment, une fois et demie plus haute qu'elle n'est large. Ce n'est pas du tout le principe qu'on a à la cathédrale de Bourges. Alors on pourrait évoquer d'autres rapprochements pour rester dans le domaine Plantagenêt, mais outre-Manche, avec la cathédrale de Wells, qui est un peu plus récente dans ses parties de la façade occidentale à Wells, où vous avez aussi une composition à 5 registres verticaux. Bon, il n'y a que 3 portails et très très modestes par rapport au développement qu'ils ont à la cathédrale de Bourges. Mais si on s'arrête ici, puisque les tours, dans leur partie isolée, ne sont pas antérieures au XVe siècle, donc ça franchit très vraisemblablement du projet initial par le détail de l'exécution, etc. Mais si on s'arrête ici, vous voyez, et qu'on se confronte uniquement les deux parties pleines des frontispices, eh bien, il y a quand même un rapprochement qui nous frappe et qui indique peut-être à Wells, pour des raisons que j'ignore, un emprunt, au moins sur cette composition à 5 parties, à la cathédrale de Bourges. Et je reviens sur le continent, et plus précisément, évidemment, un édifice que vous connaissez bien, qui est la cathédrale de Bordeaux. Donc, dans sa nef, donc un monument très complexe, du fait qu'elle était amorcée déjà sans doute vers le milieu du XIIe siècle, selon le parti d'un vaisseau unique, mais de grande dimension, donc presque 17 mètres de large. Donc, c'est le vaisseau unique le plus large qu'on puisse rencontrer à cette époque-là, dont subsistent des éléments dans la partie occidentale de la nef actuellement, mais des transformations entre 1210 et 1250 à peu près. Je renvoie évidemment aux travaux récents, notamment de l'abbé Blom, hein, qui a fourni une étude très très détaillée justement de ce chantier 12e et 13e siècle, entre autres de la cathédrale de Bordeaux, et puis à la thèse de Jacques Gardel, hein, qui était professeur à l'université de Bordeaux, thèse publiée en 1963. Donc, au départ, un projet avec une succession de travées carrées, peut-être avec un voûtement soit en coupole, soit de voûte d'ogive très bombée de plan carré, et au début du XIIIe siècle, donc un changement majeur avec le dédoublement des supports pour arriver donc à la situation actuelle, donc d'une nef de 7 travées. Les voûtes sont plus tardives, hein, certaines pas antérieures au XVe, les plus anciennes pas avant le XIVe siècle, mais ces supports ici que vous voyez, des supports fasciculés, sont incontestablement donc du XIIIe siècle ou dans le style du XIIIe siècle à la suite des restaurations du XIXe. Et on a souligné évidemment les affinités avec l'architecture de la cathédrale de Bourges, notamment le parti donc, de tapisser les noyaux cylindriques des supports de colonnettes espacées, comme c'est le cas dans les piliers donc, du premier niveau des grandes arcades de la cathédrale de Bourges. Mais je préfère m'attarder sur la comparaison du traitement donc, de l'élévation de l'intérieur de la nef de Bordeaux et de l'extérieur, du frontispice de la cathédrale de Bourges, pour ce qui est du traitement plastique. Alors évidemment, ce sont des contreforts qui rythment l'élévation de la façade de Bourges et des piliers à la cathédrale de Bordeaux, mais ce qui me frappe, c'est évidemment ce principe, donc à la suite des transformations du XIIIe siècle à Bordeaux, de la superposition de plusieurs niveaux de fenêtres, mais des fenêtres précédées par des arcades nettement détachées du plan du mur et qui correspondent évidemment à des coursières selon le même traitement qu'on rencontre dans les parties supérieures du frontispice de Bourges au-dessus des portails. Alors, je vous ai dit, la façade de Bourges est commencée vers 1220, on n'a pas de date précise. Les transformations gothiques de la nef de Poitiers sont datés entre 1210 environ et 1250. Il n'y a pas non plus de date précise. Je serais incapable actuellement donc, de dire quel est le monument qui a la primauté. Alors, on peut penser que la façade de la cathédrale de Bourges était déjà conçue au tout début du chantier, qui a ouvert à l'autre extrémité de la cathédrale en 1195. C'est une hypothèse qui, évidemment, se tient, mais pour laquelle nous n'avons pas de preuves. Quelle que soit la situation, une antériorité de Bourges ou de Bordeaux, incontestablement, il y a des contacts entre les deux édifices. On a souligné déjà depuis longue date le traitement des fenêtres avec deux lancettes sous un oculus, avec quelques variantes, qui reprend parfois très exactement le type des fenêtres, cette fois-ci des hauts vaisseaux ou des bas-côtés de la cathédrale de Bourges, sans aucun conteste. Donc une autre vue ici vous montre bien la plastique murale avec ces traitements en profondeur hein, de l'élévation qui permet donc des passages sur toute la longueur de la nef, comme c'est le cas à Bourges, au moins de chaque côté de la partie centrale, et sur le retour des tours également. Et des contacts, évidemment, que encore permis de préciser la restauration récente du portail royal de la cathédrale de Bordeaux, où certaines figures de séraphins dans les voussures trouvent leur parallèle quasi identique dans les portails de la cathédrale de Bourges. Mais ici, chronologiquement, on est à la fin, sans doute, des transformations de la nef de Bordeaux au XIIIe siècle, donc vers le milieu du XIIIe siècle. Je renvoie évidemment aux travaux menés notamment par Markus Schlicht, qui a publié un volume de mémoire, donc ouvrage collectif sur cette restauration d'un ensemble extraordinaire du milieu du XIIIe siècle, pour lequel on a mis en évidence donc, des emprunts directs, peut-être transmis par des dessins, entre des figures de voussures de la cathédrale de Bourges, du portail central notamment, qu'on date aussi vers le milieu du XIIIe siècle, donc ce sont des œuvres contemporaines, mais en contact, et ce portail royal de Bordeaux. Alors avec la deuxième moitié du XIIIe siècle, même le dernier tiers, c'est-à-dire ce qui correspond à la mise en chantier du cœur de la cathédrale Saint-André de Bordeaux, on s'éloigne cette fois-ci très nettement de la cathédrale de Bourges. La confrontation des deux chœurs à l'extérieur montre bien la différence, avec des proportions donc à peu près équilibrées du premier niveau, donc des chapelles latérales ou rayonnantes, et du niveau supérieur des fenêtres hautes du vaisseau principal à Bordeaux, et non pas cette élévation tripartite, beaucoup plus pyramidante, du chevet de la cathédrale de Bourges. Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est qu'aussi, dans les phases ultérieures encore, Bordeaux dote son transept de façade à deux tours, la façade nord même dotée de flèches, donc un transept qui prend une ampleur dans la silhouette de l'édifice considérable, alors qu'il est totalement absent à la cathédrale de Bourges. Donc il est difficile d'imaginer un édifice plus différent de Bourges que la cathédrale de Bordeaux, si on ajoute évidemment l'absence de façade occidentale à Bordeaux due à des contraintes topographiques et à l'adossement au palais archiépiscopal. C'est bloqué. Je ne comprends pas. Ah, j'ai éteint. Help. C'est presque fini, mais... Ah, pardon, j'ai cliqué au mauvais endroit. Ah non, c'est pas moi, ça maintenait. Je suis désolé. Pardon, je me trompe encore. Désolé. Non, c'est pas celui-là. Il est tout en bas, ouais, c'est celui-là. Oui, c'est ça. J'en suis là. Merci. On peut applaudir. Donc après cette escapade en Vénétie avec Bellini et Mantegna, on revient donc à Bordeaux et à Bourges. Donc j'ai dit évidemment dans les parties de la fin du XIIIe et ultérieures de Bordeaux, on s'écarte encore plus nettement de la cathédrale de Bourges. On a souligné évidemment les liens déjà depuis les travaux de Jacques Gardel avec la cathédrale de Reims, donc le plan des parties orientales du chœur, évidemment, paraît reproduit à la cathédrale de Bordeaux, mais ce n'est pas le lieu ici de détailler. Et si on élargit l'horizon aquitain et qu'on compare évidemment le chœur de Saint-André de Bordeaux à celui de la cathédrale de Bayonne au centre, commencé sans doute après 1258, et celui de la cathédrale de Limoges, donc à peu près contemporain de celui de Bordeaux, donc lancé dans le début des années 1270, on voit évidemment une élévation à trois niveaux avec ces proportions à peu près équilibrées où le premier niveau des grandes arcades s'équilibre à peu près avec le niveau supérieur des fenêtres hautes, les deux étant séparés par un triforium, qu'il soit juré à Bayonne ou plein, aveugle, donc à Limoges ou à Bordeaux. C'est le type évidemment le plus répandu. J'ai pris ces deux autres édifices, mais on aurait pu évidemment étendre davantage à Clermont, en Auvergne, à la cathédrale de Narbonne, au premier projet rayonnant donc de la fin du XIIIe siècle du chœur de la cathédrale de Toulouse, la cathédrale de Rodez, etc. Albi formant évidemment une très forte exception. Alors, je voudrais terminer sur un monument très curieux, qui est la collégiale Notre-Dame d'Uzest. Une église qui conserve des éléments antérieurs à son érection collégiale, qui est due évidemment au pape Clément V, auparavant archevêque de Bordeaux, Bertrand de Gault, donc qui en 1305 a été élu. Premier pape donc à ne pas régner à Rome ou en Italie et qui ouvre la période de la papauté d'Avignon. Donc cette église est érigée en collégiale en 1312 et c'est là où Clément V décide d'être inhumé. Son tombeau s'y trouve toujours. Donc depuis 1314, une fondation qui a été complétée par Jean XXII en 1317, très richement dotée, ce qui a permis évidemment de construire très rapidement une nouvelle abside qui présente donc nous soyons au début du XIVe siècle où, selon la notice que Jacques Gardel lui a consacrée dans un volume de la collection Les monuments de la France gothique qu'il avait écrit sur l'Aquitaine en 1992 chez Picard, qu'on considère l'ensemble de l'édifice, c'est très, ou qu'on estime comme lui, pardon, que peut remonter déjà dans certaines parties à la fin du XIIIe siècle, c'est ce qui est ici tramé en noir, outre le chevet, donc une bonne partie de l'élévation du vaisseau principal, et c'est ce qui va retenir notre attention, eh bien on est surpris d'y rencontrer, donc très tardivement par rapport à la cathédrale de Bourges, je l'ai dit, terminée en 1250, et dont l'emprise a laissé place à d'autres monuments servant de repère, à commencer par le chœur de la cathédrale de Bordeaux, eh bien, on trouve à Uzest des piliers donc, à noyaux cylindriques, ce sont ces piliers au temps fort, dans lesquels sont engagées 8 colonnettes très largement espacées les unes des autres. C'est la formule des piliers de la cathédrale de Bourges, et puis, ce qui est très étonnant à la fin du XIIIe et encore plus au début du XIVe siècle, la généralisation du voûtement d'ogives sexpartites, donc où les diagonales sont complétées par un arc transversal, un voûtement sexpartite qui, partout ailleurs en France, hein, au sens large, a tendance à disparaître complètement à partir du début du XIIIe siècle. Alors nous sommes ici presque un siècle plus tard. Et donc, le monument qui vient à l'esprit, j'ai d'autres vues, donc montre ces piliers forts. Alors, les piliers faibles ont aussi un noyau cylindrique, mais avec simplement 4 colonnettes engagées. Et puis, partout, aussi bien dans le vaisseau central, comme ici, que dans les bas-côtés, des voûtes sexpartites. Je ne vois que la cathédrale de Bourges pour servir de modèle à cette église d'Uzest. C'est une sorte d'ironie de l'histoire et d'histoire de l'art, parce que la collégiale d'Uzest, évidemment, elle doit son existence à Clément V, le pape qui a eu définitivement raison des prétentions à la primatie sur l'ensemble de l'Aquitaine du clergé de Bourges, puisqu'il avait l'autorité, évidemment, pour ramener à la raison, si on pense du côté, évidemment, de Bordeaux ou d'Auch, le clergé de Bourges. Et pourtant, dans l'architecture de cette collégiale, on cite abondamment la cathédrale de Bourges. C'est peut-être une forme d'ironie, simplement une hypothèse que je transmets, ou en tout cas l'emprunt à un monument évidemment tout à fait extraordinaire, la cathédrale de Bourges, à un siècle de distance d'éléments typiques de son architecture, à un moment où finalement le clergé de Bourges n'est plus un danger, si vous voulez, pour l'église de Bordeaux, dans le diocèse duquel d'ailleurs Clément V a fait rattacher la ville d'Uzest et sa collégiale. Je vous remercie.